Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc oui, on continue dans le mois de décembre dans les films de Noël avec un film pas de Noël, mais je m'en fous parce que moi, Gremlins, je les écoute toujours en paire. Gremlins 1 vient avec Gremlins 2.
Fait que pour moi, l'effort était là. L'effort était là parce que quand tu... Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu... Quand tu me l'as présenté, t'as dit « Ah, oh, on va regarder les films de Noël, là, Gremlin 1 puis 2, ça va être, on va faire des films de Noël. » Fait que j'avais full d'attente que le 2, ce soit un film de Noël.
Je m'explique en disant que moi, je les écoute toujours en paire, ces films-là, fait que j'ai toujours écouté Gremlins 2 à Noël aussi. Fait que dans ma tête, c'est associé avec Noël.
Ah ouais, mais il est correct, il peut passer comme un film de Noël, parce qu'au final, les Gremlins, c'est quand même des films joyeux, là. C'est ça que j'en comprends là, de ma récente expérience.
Aussi, exactement. Là. Donc, on fait Gremlins 2 de Joe Dante, encore une fois, le même réalisateur. On a aussi au scénario Charles S. H.A.S. S.H.A.S. En tout cas, c'est lui qui a scénarisé aussi Matinée, un film de Joe Dante en 93.
OK.
Mais Gremlins 2, Seb, ton impression de New Batch?
À mes yeux, il est équivalent au premier. Différent, mais équivalent. Je l'ai aimé autant pour un... Il est comme plus déjanté, mais il y a comme certains aspects, je trouve, un petit peu toned down, comme les personnages sont un petit peu moins attachants, je trouvais.
Ben, c'est à cause que ça, t'as pas la touche... Spielberg est moins présent, on dirait, sa touche de producteur des années 80, là.
Ouais. Il est quand même mentionné dans les titres initiaux, par exemple, mais...
Ouais, mais je veux dire, il est quand même moins... ça touche des années 80, là, familial, de présentation de famille est moins là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a moins la présence. Les règles sont encore là, sont appliquées, mais comme on les connaît, c'est comme moins un élément d'intrigue. Fait que, tu sais, il y a ces aspects-là que, comme c'est un deuxième, tu peux pas t'appuyer là-dessus. Ce qui fait qu'il perd un petit peu de son, je veux dire, wow effect, là, de wow, c'est nouveau. Mais... ils ont juste cut to the chase. Puis il y a une scène qui démontre, au fond, pourquoi le 2 est aussi bon que le 1. C'est qu'à un certain moment, la blonde du personnage principal, elle vient pour rentrer dans son histoire. Pareil comme dans le 1. La scène où tout le monde tourne des yeux dans le 1. Puis tous les personnages font vraiment juste tourner les yeux puis personne ne l'écoute. Comme si son histoire super dramatique, tout le monde s'en foutait. Puis je pense que cette scène-là, elle illustre genre le 2. On paye nos respects au 1. On fait de quoi de super divertissant, mais on cut to the chase puis on améliore la chose sur certains aspects. Fait que je trouve que c'est un vraiment bien exécuté.
Ben oui. Non, ça, je suis totalement d'accord. Là. J'essaie de retrouver la scène dans mes notes parce que je sais que je l'ai marqué. Là. Quelle histoire qu'elle essaie de raconter, là. Mais ouais, je suis totalement d'accord.
J'ai pas noté l'histoire, mais je me souviens juste qu'elle essaie de raconter son histoire. C'est comme la fois où à Pâques, genre, elle essaie de nommer comme un autre fête, là. Puis tout le monde fait juste pas l'écouter.
Ouais, c'est vrai de ça, là. Moi, ce film-là, je le trouve. Je trouve que c'est exactement ce qu'une suite devrait faire, là.
Ah, ouais. Puis renchérir sur son propre concept, en fait.
Ouais, exactement.
Il y a une version de ce film-là qui aurait pu être trop cheese, un peu trop gizmo, mettons. Mais je trouvais qu'il était bien dosé, mais un petit peu plus de gizmo, puis j'aurais roulé les yeux.
Mais qu'est-ce qui arrive, là, c'est que les studios, ils ont essayé... Tu sais, le premier a fait vraiment beaucoup d'argent, là.
Ouais, c'est sûr.
Puis ils ont essayé de faire une suite. Et là, ils ont essayé de trouver des réalisateurs, ça marchait pas. Ça a toujours pas marché, ça a jamais marché. Il y a eu bien des problèmes, puis à un moment donné, ils se sont retournés, puis ils ont dit, bon, ben peut-être que qu'est-ce qui a fait que c'était un succès, c'était Joe Dante. Ils sont venus voir Joe Dante, puis ils ont dit... on veut juste quelque chose qui s'appelle Gremlins 2. Puis on te donne carte blanche.
Oh, ça c'est un beau terrain de jeu, par exemple.
Ce qui est fucking rare à Hollywood. Fait que Joe Dante, il a dit, j'ai une carte blanche, je peux pas passer ça. Mm-hmm. Fait qu'il a accepté, même si c'était pas dans ses plans de refaire un Gremlins 2.
Ouais.
Il a accepté, ça a donné l'excellente suite qu'on a eue. Est-ce que c'était le meilleur move pour un studio? Je vais te le dire quand on va parler des budgets. Mais par contre, pour les fans et pour l'histoire du cinéma, ça donne quelque chose d'assez exceptionnel. Là.
Oui. Puis vraiment, il y a des belles qualités là, en termes de déjanté. Puis le vraiment, Gremlin de New Batch, c'est vraiment une nouvelle batch de petits monstres là, qui top l'ancienne génération à mes yeux.
Ah, et de loin. Là. Mais et hey, de j'ai trouvé la scène qui illustre. Là. Elle veut parler de... parce qu'il parle du Lincoln Day. Elle a dit « Ah, parlez-moi pas du Lincoln Day, mais t'es arrivé quelque chose ce jour-là. » Elle a dit « Hey, on a d'autres choses à faire, là. Viens-t'en. » Puis la coupe, puis justement, là, c'est un throwback au speech du Père Noël du premier. Là.
Exact. Le speech du Père Noël qui était super mélodramatique, là, parce qu'elle a brûlé son père mort. En tout cas.
Ouais. Mais ouais, sinon, Stallone a donné son go par rapport au Gizmo Rambo. Parce que
ah, ok, même... ils ont demandé s'il y avait le droit de. Parce que Stallone, il a produit Rambo 1, c'est ça? Fait que c'est lui qui avait les droits.
Ouais. Okay. Ben, je pense qu'il l'avait même écrit, là, si je me souviens bien.
Oh, wow!
Là, de mémoire.
Je savais pas ça. Produit par Sylvester Stallone et écrit par Sylvester Stallone, ça avait pas le choix d'être un succès.
Je sais qu'il a écrit Rocky, mais je suis pas sûr s'il a écrit Rambo. Là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'influence dans Rambo. Là. C'est surtout
quand
Rambo
même,
2
quand
qui s'est parodié.
Quand même une personne badass, Sylvester Stallone, quand il y pense.
Ben oui, il a fait de la porn pour pouvoir financer Rocky, puis après ça, il a fait Rocky, puis il a gagné le score du meilleur film.
Yeah.
C'est quand même le rêve
des,
américain.
Ton projet, là, tu peux pas. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de Hollywood, là, rien d'autre.
Ben oui, le rêve américain. Tout ça pour dire que ça niaise plus, par contre, parce que je sais pas si t'as vu les Rambo.
Peut-être. J'ai sûrement vu le 1.
Ben parce que le 1, ça veut un film anti-guerre, ce qui est. Puis les 2 et 3 et ainsi de suite, c'est des films pro-guerre à l'os, là. C'est ça
ouais.
Qui est quand même drôle.
J'ai vu celui qui s'appelle Juste Rambo, là, celui où il tire du machine gun, que normalement, il y a comme un pied de métal qu'il tient, mais lui, il le tient avec sa hanche, là.
Ah, ben ça, il le fait dans chacun des films, fait okay. Que c'est pas une référence. Là.
OK, ben c'est le dernier, je pense que c'est le dernier Rambo qu'ils ont fait d'abord que j'ai vu. J'ai vu le premier, il est comme... C'est plus un héros de guerre en PTSD, là, en grosse psychose, au fond. Là.
Ouais, ça, c'est le premier.
Okay, ça, j'ai vu le premier de bord.
Mais l'autre que tu parles, c'est ça. Toi, tu parles du 4. Là, parce qu'il y a eu Rambo Last Blood que moi, j'ai pas encore vu. Là, que, okay. Ça paraît c'est une abomination. Là, que c'est Rambo contre le cartel mexicain. Là. Ça, je l'ai pas encore vu. Là, mais bon. Tout ça pour dire que le film, tu penses que le budget était de combien?
Je vais dire... Ben là, je me souviens plus, j'avais dit combien pour le premier, parce que c'est sûr qu'ils ont topé le budget du premier.
C'était 11 millions le premier.
11 millions, fait que je vais y aller avec un 15, parce qu'ils ont renchéri au niveau des costumes, notamment, là, puis des décors. Là,
je te coupe tout de suite, 50 millions.
What? Ils ont fait x5!
Ouais.
Holy snap!
Ouais, et le film?
Il y a une cloche aussi sur les marionnettes, là.
Mais... Ouais, mais c'est ça, c'est là que les marionnettes coûtaient entre 30 000 et 50 000. Là. Je sais pas si j'ai dit en premier, mais
ouais,
ils coûtaient
oui,
vraiment cher, puis il y en avait beaucoup. Puis c'est là qu'ils demandaient au monde d'ouvrir leur valise, là, dont l'acteur principal là, qui joue Billy. Mm-hmm. Billy disait « Hey, je travaille sur le film, ça serait zéro à mon intérêt de voler un de mes collègues de travail, entre guillemets.
Ouais, » ouais.
L'agent de sécurité a juste dit « You have opportunity. Open the trunk. »
C'est un futur policier, ce gars-là.
Et bon, là, il prend sa job. Warner Brothers doit vraiment payer cher. Là. Mais d'ailleurs, là, le film a fait 41 millions, ce qui est un flop.
Oh, wow. C'est rare qu'on couvre des films qui flopent, qui couvrent même pas le cul, hein?
Ouais, c'est ça, celle-là, tu sais, 50 millions, il a refait 41. Sûrement qu'il a fait de l'argent en vidéo sur demande, etc. Mais ce film-là a clairement un cult following. Mmh. Avec raison, là.
Mais parce que c'est un gremlin, là. Fait qu'au final, les studios, leur axe, c'était de nous n'importe quoi, mais on veut un gremlin, ça a marché, là.
Ouais.
Comme, je suis content qu'il ait fait un 2, moi. Si tu me dis qu'ils en font un 3, je vais aller le voir, c'est sûr.
Ils sont en train. Christopher Columbus. Qui a aussi écrit Home Alone et Gremlins 1 et Harry Potter 1 et 2, on a parlé au dernier épisode.
Nice.
Est en train et a écrit, supposément parce qu'il a commenté, un troisième film. Puis est en train de dire qu'il veut rien savoir du CGI dans son scénario. Il est
nice.
En train de vendre le film comme un film sans CGI, un Gremlins 3.
Ça serait hot.
Ouais,
ça serait vraiment hot.
Ça pourrait vraiment être cool. Je sais pas, d'après moi, vu que Chris Columbus il revient, ça risque d'être plus à la. Sauce du premier.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, quand même, on pourrait peut-être se permettre quelques excès comme le 2. Là. Un juste milieu pourrait quand même être intéressant.
Ouais, ouais. J'aurais vraiment hâte de voir comment ils vont se démarquer. Parce qu'ils ont fait pas mal de niaiseries. Puis ils ont fait déjà dans le premier beaucoup des références cinématographiques. Puis des trucs typiques là, de mischief. Puis de chaos.
Ouais.
Dans le 2, ils ont topé. T'sais, ils ont renchéri, mais là, dans le 3, on va s'attendre à ce qu'ils renchérissent. On va pas se dire qu'il faut qu'ils renchérissent. Ben, il faut qu'ils renchérissent ou qu'ils se démarquent. Fait que j'ai hâte de voir le nouveau type de chaos qu'ils ont
mais man, sorti. Moi, il faut que je te le dise, où est-ce que je me situe là-dedans? Là, je vais vendre la mèche tout de suite, là, parce que ça se peut que je te coupe là, pendant le podcast, je m'excuse ou que je prenne plus les rênes. Là, mais Gremlins 2, je l'aime plus que le premier.
Ah ouais?
J'adore Gremlins 2, puis ça m'a fait penser quand je l'ai réécouté à quel point j'aime ce film-là. Là. C'est pas juste un facteur nostalgique parce que je l'écoutais aussi quand j'étais jeune, celui-là. Mais mm-hmm. C'est le 1, je l'avais en VHS. Le 2, je l'ai jamais eu en VHS. Je le pognais juste à la télévision. Là. Okay, fait que quand il passait à la télé, c'était un événement. Okay. Je pognais Gremlins 2. Là. C'est sûr que je l'écoutais peu importe ce que je faisais dans la journée. Ouais. Puis j'adorais ce film-là. Je savais pas si c'était juste parce que j'étais jeune que je l'aimais autant, mais ça faisait longtemps que j'avais pas réécouté le 2. Puis honnêtement, j'adore ce film-là. Il a fait tout ce que Jim Foote devait faire. L'humour autoréférentiel ou l'humour de cinéma, tout. On va tout y revenir. Là, parce que je pense que la première partie du film, on peut vraiment la passer vite. Puis si tu me permets, au pire, je pourrais prendre les rênes puis passer à travers la première partie du film vite. Parce qu'à partir de quand les Gremlins sont là, il y a tellement à dire qu'on pourrait faire un podcast de 2 heures, là, à mon opinion. Non, mais c'est vrai.
OK. All right. OK.
Mais mettons là, que... Le film, là, au début, ça commence avec un What the fuck, Bugs Bunny puis Daffy Duck qui s'astinent. Déjà, t'as le ton du film, puis c'est pour ça que Joe Dante voulait faire ça. Là.
Ah, ça faisait partie du film, ça?
Ouais.
Je pensais que c'était juste mon DVD qui avait été parti sur une chenille.
Non, c'est.
OK.
C'est vraiment. C'était voulu, puis c'est à cause que des fois, il y avait des introductions de films qui étaient comme ça, qu'il y avait des mini courts-métrages, un peu comme Pixar fait en ce moment avec des courts-métrages.
Ouais, et puis là, c'est une grosse signature de leur part, là, les courts-métrages chez Pixar.
Mais il y en avait des sketchs de Bugs Bunny avant des films. Fait que là, les gens s'attendaient à voir ça, mais finalement, c'est se transformé en joke. Là.
Okay.
Fait que là, le ton du film, là, d'être conscient qu'il est un film un peu.
Mm-hmm. Tu vois, j'ai vraiment pas porté attention. Je sais qu'il y a eu un sketch, mais je peux même pas te dire de quoi il parle. J'ai vraiment pensé que mon DVD, il avait ajouté de quoi sur le DVD puis que ça faisait pas partie du film et je l'ai même pas écouté.
Ça fait partie du film. Après ça, t'es à New York, Chinatown. Gizmo écoute Rambo 2 dans Chinatown.
Exact.
T'es présenté au boss de Billy parce que Billy puis sa conjointe ont déménagé à New York.
Yes.
Ils travaillent dans un gros bureau qui est Monsieur Clamp.
Mr. Clamp. Mais ça, j'ai trouvé ça Mr. Trump?
Exactement. I take New York.
I take New York, puis Mr. Clamp. Puis genre, son signe, c'est un C qui écrase la terre, tu sais. Puis moi, ce que j'aimais vraiment là, de l'environnement du début du film, c'est le gars, son père, c'est un inventeur raté, puis il se retrouve dans une grande entreprise d'inventeurs ratés, puis il n'y a rien qui marche autour de lui. Puis il continue de se fâcher après son environnement.
Ouais.
C'est le seul environnement qu'il a jamais connu.
Tu sais, Trump, là, c'est clairement inspiré de lui. Tu sais, Joe Dante, il l'avoue à moitié dans des podcasts ou des choses comme ça. Mais tu sais, tu repenses à Trump, avant d'être le président des États-Unis, maintenant qu'on a connu, puis le personnage qu'on a connu.
Mais oui,
ben, c'était jamais vu. Exactement. Là. Il allait dans des shows de lutte, il allait à la télévision.
Donald Trump, là, il a une étoile sur le Hollywood Boulevard.
Ah ouais, ça, je savais même pas.
Une étoile sur le Hollywood Boulevard pour, je pense, c'est pour The Apprentice, comme étant une star de la TV.
Ah ouais, je savais même pas.
Ouais.
Mais c'est juste pour dire que, justement, là, c'était une personnalité publique. Clairement, le personnage de Clamp, il est inspiré de Trump, là. On va se le dire, là, c'est évident.
Ouais.
Là.
Ouais, puis mais il est typique quand même.
Mais c'est ça, là. Billy a des règlements bien raides dans sa job. Ils se font scanner et ils ont toutes les informations des employés. Il n'a pas le droit de mettre un pot de fleurs. Ben oui, tout le monde est surveillé. Là. C'est comme une société totalitaire. Là.
Ah oui, et puis c'est l'argument du gars pour dire qu'il n'a pas le droit d'afficher de quoi sur son bureau. T'sais. Là, on dépense des millions en œuvres d'art pour que ça fitte avec notre décor gris, genre. Puis toi, tu vas y mettre de la couleur là-dedans. Tu vas-tu me dire qui tu penses que t'es pour avoir ta tasse World Best Dad ou je sais pas trop. Puis
ouais.
Je sais pas pourquoi ça m'a fait crissement rire, genre. Le gars, il a l'impression qu'il crée un environnement de travail parfait, mais c'est juste froid et... Ah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait chaud au cœur.
D'après moi, ça doit être à l'image de peut-être certaines... société qui essaie d'optimiser à cette époque-là. Là.
Ouais, ben, tu vois, ça, c'est un élément de style de film de Noël. Ouais, c'est un peu Grinch, là. Fait que ça, c'est toujours attachant. C'est ça qui est contraste. C'est full exagéré, mais c'est tout le temps attachant.
Mais là, après ça, justement, là, tu t'en vas dans. Parce que Clamp, que je vais essayer de pas dire Trump, là, mais Clamp, il y a un network de télévision qui joue plein de postes dans ce building-là. T'es introduit à un film télé qui s'appelle The Attack of the Octopus People.
Ouais.
Ça fait vraiment... Est-ce que tu connais Elvira, Seb?
Oh, nope.
Elvira, Mistress of Darkness, c'est une fille qui avait une grosse wig noire, un décolleté immense avec des seins immenses aussi. Là. Mais elle présentait des films d'horreur.
OK.
Puis elle les commente au milieu du film, un peu comme Joe Bob Briggs fait. Puis c'était vraiment un icône des années 80. Elle a même eu son propre film en 1988, si je ne me trompe pas. Là. Elvira, Mistress of Darkness. C'est un de ses films. C'est super drôle pour elle. Ça fait vraiment penser un peu à Pee-wee Herman, le film de Tim Burton. Là. Mais long story short, c'est vraiment un throwback à ce genre d'émission-là qu'il y avait. Là. Un commentateur qui parle du film, qui présente le film d'horreur. Il fait des throwbacks à ça. Là. C'était vraiment Elvira, le personnage du genre de contre-acteur.
Okay. Ça faisait Creepshow un peu, là, un présentateur de...
Creepshow pourrait être là, mais c'est vraiment un film qu'il présentait. Fait que c'était vraiment plus Elvira que Creepshow, mais je peux comprendre le Creepshow. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'après, on coupe avec Christopher Lee, qui est le chef des scientifiques. Puis Christopher Lee, qui toi, tu le connais sûrement pour être Comte Dooku.
Oui.
Ben, lui, c'est Dracula dans c'est Dracula dans les films de Hammer. Les Hammer Productions. Que okay. C'est un genre qu'on va devoir traiter. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit que ce film-là, il est épique, là. Vraiment, là. C'est... Puis Christopher Lee, c'est à cause... Il y a eu les Dracula de Universal dans les années 30-40. Mais après ça, Hammer a commencé ses propres séries de films qui étaient un peu comme les Universal Monsters, mais Hammer Production. Puis Dracula, ben c'était Christopher Lee. Ben là, t'as lui qui est comme...
Je me demandais pourquoi il était aussi populaire, parce que moi je le connais comme Comte Dooku. Right? Puis je savais pas sa carrière, puis je sais qu'il a été nommé Chevalier de la Reine. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce gars-là a fait pour être nommé Chevalier de la Reine, à part avoir été Sauron aussi?
Il a été Comte Dooku.
Pas Sauron, mais...
Saruman?
Saruman, ouais. C'est comme... Moi, c'est les deux grands rôles pour lesquels je le connais, cet acteur-là, puis il y a comme 1 million d'années. Là.
Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que l'acteur... Vas-y, excuse.
Ben, j'avais terminé. Au fond, je faisais juste dire qu'il est... Je comprenais pas pourquoi... Qu'est-ce qui lui valait le knighthood, là, le poste de chevalier de la reine, genre.
Mais l'acteur, c'est drôle que tu dises ça, là, parce que l'acteur qui joue Billy, je pense que c'est lui, là, me semble. J'ai écouté une interview par rapport aux 40 ans du... 30 ans du film? 30 ans. 30 ans du film. Wow. Puis l'acteur, il demandait à Christopher Lee, « Quel film t'es le plus fier? » Puis là, il y avait un accent anglais, là. Il dit « It will be The Wicker Man ». Mais, tu sais, là, il dit... Ce qui est drôle qu'il réponde ça, parce que tu sais, il avait pas encore fait Comte Dooku, il avait pas encore fait ça, tu sais, The Lord of the Rings, tous les gros films qui ont été connus après.
Ouais.
Mais c'était The Wicker Man, sa prestation préférée en tant qu'acteur. Là.
Nice. J'ai pas vu The Wicker Man.
Moi non plus.
Oh! Ça, c'est le fun, le film où on n'a jamais vu les deux. Là. Il y a un bon potentiel.
Mais c'est un gros, gros must là, à écouter. Mais oui, fait que ça qui est drôle que ça soit après qu'il y ait un faux Dracula qui présente les films, ça coupe avec Christopher Lee qui est Dracula de Hammer Production.
Nice.
Mais là, eux, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont des deux jumeaux dans le laboratoire qui ont trouvé Gizmo après la destruction d'un immeuble dans Chinatown.
Oui. Ça l'amène au laboratoire. Les deux jumeaux parce que c'est clairement une entreprise qui fait du clonage puis des trucs pas legit. Fait que le fait qu'il y ait des jumeaux, ça te fait te demander comme quel point c'est des jumeaux legit.
Ouais, c'est vrai, pareil, hein? C'est vrai. Mais moi, il y a plein d'affaires. Là. Quand t'es dans le labo, t'as comme une vache qui passe puis là, elle dit...
Ah, ouais, c'est incroyable comment c'est riche comme environnement. T'as le docteur qui reçoit son... Des germes, puis qui dit « Ah, si je voulais avoir de la malaria, puis là, j'ai juste eu, je sais pas trop quoi, des rabies. »
Ah ouais, ça a pas d'allure.
Je veux des fresh germs, puis là, il fait juste ramasser le Kleenex pour avoir du flou, il veut avoir de la grippe, tu sais, puis il se plaint que ces fucking maladies mortelles sont back-order, genre.
C'est ouais, intense. Non, ça c'était bon aussi. Là,
toutes ah, les ouais, j'ai adoré la vache, c'est vrai. Je me suis
dit, I like giving c'est... milk. I like giving milk. C'est que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que bon. Gizmo chante sa chanson thème du premier film, puis un livreur l'entend. Le livreur se rend sur l'étage de Billy, puis Billy reconnaît la chanson. Puis là, il demande au livreur où est-ce que tu as trouvé ça, puis il dit oh, c'était au labo. Fait que c'est ça qui fait que Billy se retrouve au labo, puis il s'en va chercher Gizmo.
Ouais. Mais moi, je trouve que Billy, c'est un peu un jerk.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que il y avait toutes les informations en main pour retrouver puis aller voir Gizmo bien avant ça.
Non, mais c'est pas un jerk. Wow, il s'est fait enlever à la fin du premier.
Mais oui,
il
mais.
Il respectait le maître chinois d'y avoir enlevé.
Mais oui, mais il aurait pu aller le voir. Il sait qu'il est à New York, il sait que c'est dans Chinatown, puis son père, il a clairement l'adresse. Mais oui, donc, mais... il aurait vraiment voulu aller voir Gizmo. Il aurait pu.
Mais les responsables, les ancêtres de Gizmo puis les gens qui s'occupent de lui disent qu'il n'était pas apte à s'en occuper. C'était quoi son droit d'aller le chercher au final?
Il n'est pas obligé d'aller le chercher. Il aurait pu juste aller dire salut puis je m'ennuie toi, petit bonhomme. Ça aurait été très respectueux de sa part d'ailleurs, vu qu'il vit dans la même ville que Gizmo.
Ben, je comprends ton point, mais je trouve pas que c'est un jerk pour autant.
Pour moi. Non, mais c'est juste, en le regardant, j'étais comme, ah, t'es surpris de le voir, mais tu sais qu'il vit à New York, t'as fait aucun effort, mais t'es un mauvais ami.
Mais aussi, dans le labo, là, t'as la géante araignée qui fait vraiment throwback au film des années 50 de The Monster, là, un peu. Mais oui. Bon, Billy va chercher Gizmo, le met dans son classeur.
Ouais.
Il ferme la patte dessus, des choses comme ça. Il essaie de le cacher. Ouais. Là, on a de l'humour un peu situationnel. Là. Mais bon, il demande...
Vas-y.
Oh, ça paraît que je suis trop énervé. Hein?
Ah ouais, t'as le goût. J'ai même pas envie de t'arrêter.
Mais c'est à cause que je veux passer à travers vite le début parce que c'est vraiment à partir de quand les Gremlins sont là que ça pète. Là, puis ce film-là, il y a tellement de références et tout ça. Mais il demande à Kate d'aller chercher Gizmo.
Yes.
Il rappelle les règles. Mais là, t'as Gizmo qui a un abreuvoir qui est pété puis qui, ma foi, gise comme un abreuvoir à jamais gisé. Là. Ça n'a aucun sens.
J'aime ton choix de mots. ouais. Puis Gizmo qui se rend compte que la situation est dangereuse puis qui fait l'effort de reculer.
Ouais, pauvre petit.
Il se cache. Puis finalement, ça marche pas. Est-ce que j'ai trouvé ça bon aussi?
Il se fait finalement arroser puis il accouche. Exactement. Il accouche d'un fou cross-side de Spike 2. Un grincheux puis un stupide. C'est un peu
exact.
Ça, là.
Ouais. Stupide, le gremlin sur la cocaïne, puis Stripe 2.
Ouais,
puis Stripe, on reconnaît moyen dans son rôle de leader suprême. C'est pas vraiment le même gremlin, au fond.
Non. Mais tu sais, c'est pas notre même gremlin au final aussi. Là.
Ils l'ont fait ressembler. Ça, je trouvais ça, c'est un truc qui m'a déçu un petit peu.
Ah ouais?
Mais
manque d'originalité,
juste un petit peu. Dans le sens où ils ont vraiment fait un effort pour qu'il ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis au final, ils lui ont pas comme redonné la même place dans l'histoire ou dans son rôle. Ce qui me fait dire que c'était pas comme le même gremlin, au fond.
Ouais.
Mais ils ont fait vraiment un effort pour qu'il ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je pense que c'était pour qu'on sache que ça va être lui le plus méchant de la gang.
ouais.
C'est un peu pour faire confiance à son public, là, je comprends.
Ouais, c'est ça. Je trouve ça un petit peu poche, mais c'est un aspect très, très, très mineur.
Ouais, vraiment. Là. Mais il intimide Gizmo, il le met dans la réaction. Là, après ça, tu vois que Billy est avec sa boss cougar rousse.
Ouais.
Dans un resto canadien.
Ça, j'ai trouvé ça drôle. Là. C'est un nouveau resto canadien, puis à ce point, tout le monde est déguisé en police montée. Puis j'étais comme,
ouais, wow. Toutes des polices montées, de la fourrure partout. Je me suis dit, ouais, j'espère que c'était vraiment voulu de Joe Dante d'être humoristique à l'os, ou j'espère qu'il ne nous voyait pas de même dans les années 90. Là. Juste
mais ça, je pense Canada, qu'il nous voit, il nous voit encore comme ça, là, mais c'est correct, c'est drôle. C'est pas grave.
Ça se peut, ouais. Mais en tout cas, Billy. Il retourne de ça, là, il retourne au centre. Le centre commercial a l'air d'être 24 heures sur 24.
Ouais, il s'arrête jamais, je pense.
Non, c'est ça. Là. Long story short, sa conjointe s'en va chercher le cocaïnoman, comme tu dirais.
Le gremlin, ça coke.
Ouais.
Et il dit à un moment donné, elle dit wow, Gizmo, t'es vraiment hyper.
Ah ouais, hein.
Il est intense, ce gremlin-là. Moi, ça m'a fait rire en Chris. Il est tellement intense, là, puis son petit rire de gremlin, genre « hi-hi », ça m'a vraiment fait rire beaucoup.
Non, il est vraiment
intense. Tu l'as aimé? Oui, je l'ai aimé.
J'avais peur que tu le trouves trop exagéré, là, justement.
Non, il est tellement un point intense que au début, t'es comme OK, moi, il gossait un peu. Puis au lendemain, t'es comme OK, là, c'est bon. Si j'ai compris, puis ça fait rire.
Ouais, mais c'est ça, parce que là, lui, il crache dans la face à Billy, il est vraiment trop intense. Fait qu'il se dit, bon, ben là, faut pas le choix, là, Billy.
Barbe. Un vrai gremlin, lui.
Ouais. Billy, il se dit, faut que je me retourne chercher Gizmo à la Tower, à la pas Trump Tower, mais la Clam Tower. Fait qu'il retourne. Là, après ça, il parle avec le vampire. Le vampire qui est un peu une personnification de Joe Dante parce qu'il chiale comme quoi les meilleurs films étaient en noir et blanc et des choses comme
ah,
ça.
Ah, OK, ouais. Ben oui, clairement, le vampire, c'était un message d'une autre personne. Ça je l'avais vu, mais je pouvais pas pinpointer le qui, mettons.
Ah, écoutez les podcasts de Joe Dante. T'sais, Joe Dante, on dirait qu'il n'y a rien qui a été fait de bon avant 70, là, après 70, là, quasiment. Là. Okay. Mais il est quand même super intéressant, là. Il connaît vraiment gros les films, tout ça, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, une personnification de lui. Mm-hmm. Mais long story short, là, t'as juste, ça m'a fait rire parce que la Clamp Cable Network, c'est CCN au lieu d'être CNN.
Ouais, ça aussi, je l'ai pogné, ça, je trouvais ça ouais. Bon.
Tout ça pour dire que là, les boss de Billy niaisent parce qu'ils parlent des règles des Gremlins. Puis que là, il dit, là, il y a un danger parce qu'il réalise que les Gremlins, il y en a plusieurs, puis que ça pourrait, il pourrait arriver de quoi de pas bon. Quand il lui dit les règles, tout le monde le niaise, tout le monde, il y en a qui disent, ah, qu'est-ce qui arrive s'il y a de quoi qui est coincé dans
oui,
ses dents?
C'est bon, ça, j'ai trouvé ça excellent parce qu'au fond, c'était comme la reprise de la même scène avec les policiers dans le 1.
Mm-hmm.
Mais là, personne ne l'ostine sur le fait que les Gremlins existent. Tout le monde gosse sur le fait qu'il y a des règles. Puis qu'est-ce qui se passe avec les règles? Fait que c'est les questions que tout le monde se pose, entre guillemets. Fait que là, les autres, ils challengent là-dessus. Genre, hey, t'as pas pensé à ton affaire. Puis au final, on s'entorche. C'est juste, ils ont bouffé après minuit, ils se transforment. Tu peux rien faire anyway. Deal with it.
Il y a 6 ans entre le film, le 1 puis le 2, ce qui est probablement la raison de l'échec commercial.
OK.
Puis tu sais, je me dis, c'est sûrement le genre de joke ou de commentaire que le scénariste ou le réalisateur ont eu.
Ben
tu sais, en disant, ah, mais là, les règles, tu sais, dans ton film Gremlins, comment ça marche, puis tout ça. Tu sais, c'est juste là, ils font du millage là-dessus, puis j'ai trouvé ça excellent, là. Jusqu'à temps qu'un Gremlins défonce le panneau, là.
C'est direct le gars qui se plaint il explique les fuseaux horaires. Qu'est-ce que c'est un Gremlin dans un avion, puis qui croise un fuseau horaire, puis là, clau!
Ouais.
Il se mord de la face, j'ai trouvé ça excellent, ça.
T'as encore Gizmo qui se fait intimider par Stripe.
Gizmo, il se fait torturer.
Il met la face dans une imprimante, que d'ailleurs, ça doit le faire souffrir parce que la lumière, il fait mal. Fait que la lumière de l'imprimante doit quand même faire mal à chaque photo qu'il fait faire. Là.
Ah, il y a un shit ton de photos.
Ouais, avoue, t'as-tu pensé à ça?
Non, j'avais pas pensé à ça.
Ça doit vraiment faire mal.
Moi, j'ai pas pensé à ça pas tout.
Quand que... Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une émission de culinaire. Là, de...
ça, c'est bon.
Ouais, non, avoue, là. Pour vrai.
C'est bon.
À chaque fois, t'arrêtes pas de dire c'est bon. Gremlins 1 a la force du temps des fêtes, la force d'un vibe de Noël, qui est un film que tu peux écouter en répétition parce que c'est Noël.
Exact. Puis, pour moi, vu que je les ai écoutés dans l'ordre en plus, il y avait comme quelque chose de nouveau quand même, puis de super agréable et rafraîchissant.
Mais Gremlins 2 a la force de. Avoir tout mis à x2 les éléments, puis en plus de critiquer son propre film, puis d'assumer ses défauts, puis de les amener à un autre niveau, là, c'est tout ce qu'une suite devait faire, puis c'est vraiment, là, moi je l'adore là, cette suite-là, là. Puis tu sais, t'arrêtes pas d'en parler, puis je pense que objectivement, les deux films, mettons je te disais, enlève le vibe de Noël du premier, ce qu'on peut pas faire parce qu'il l'a, puis c'est vraiment hot, mais le 2 est supérieur. Là.
Oui. Oui, mais c'est deux films équivalents pour des raisons différentes, là, complètement.
Mais ils foutent le bordel à l'émission culinaire de la madame, puis ils mettent le feu.
J'ai vraiment trouvé ça excellent. Là. Il y a un gremlin qui est dans marmite, c'est sûr qu'il est dans marmite, il pop, là, la madame alcooline qui anime son émission.
Ouais.
Puis qui se claque vraiment pas subtilement des verres en faisant sa recette. Ça, j'ai trouvé ça excellent, typique, mais vraiment excellent parce que la façon qu'elle hack, là, elle arrondit, comme elle parle un peu comme ça, arrondit.
Ah ouais, elle joue bien. Ah elle joue ouais. bien.
C'est crédible qu'elle a l'air un peu pompette. Puis les gremlins qui finissent par mettre des ustensiles dans le micro-ondes. Puis comme on dirait que c'est typique dans ces années-là, genre, hey, là, les micro-ondes, nouvelle technologie, on fait de la bouffe de micro-ondes, ouais. Il faut pas que tu mettes du stock dans le micro-ondes. Je trouvais que c'était vraiment mais bon.
C'est
là.
Aussi un excellent prétexte pour partir les sprinklers.
Ah, ben oui. Ça, c'était.
Puis faire multiplier les gremlins. Puis c'était vraiment bon. Là. Moi, je trouvais ça vraiment cool là, d'intégrer une émission culinaire et tout ça. Puis la transformation est tellement hot, là.
Oui.
Les espèces de fœtus de gremlins que ça leur fait dans le dos.
Ah ouais, ouais.
Sont
ouais.
beaux, c'est bien fait, c'est vraiment.
Là, on voit le budget, là, à ce moment-là.
Ouais, t'as-tu aimé ça, toi? T'as aimé ça, toi, avec?
Ouais, ouais. Puis j'ai aimé aussi la fille dans l'espèce de tour de contrôle qui est comme, monsieur, il y a l'alerte de contrôle de peste qui vient d'allumer.
Ah ouais, puis on comprend pas. C'est des rats, hein, c'est ça?
Ben oui, à ce moment-là, elle a dit non, non, c'est pas des rats, là. C'est clairement l'affaire qui vient de défoncer un écran v'là 10 minutes. Là.
Ouais.
Puis il est comme, non, c'est sûr, c'est des rats.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, Gizmo se fait intimider encore. Je pense que là, c'est là qu'il y a un train qui passe dessus. Kate est dans l'ascenseur. Cette scène-là, tu sais, c'est juste
cocasse. Ah ouais. Elle est cocasse, elle est quelconque, mais en même temps, je trouvais ça hot quand il y a l'ascenseur smash, au fond, puis qu'elle, elle a rien, mais que toutes les gremlins y ont explosé. Je trouvais ça bon.
Elle sentait vraiment bien, on va se le dire, là.
Ouais, vraiment, pour la chute qu'elle a eue, mettons. Il y a la scène avec Mr. Clamp aussi, où il y a le gremlin qui tue sa secrétaire.
Ouais, c'est vrai. Puis, je trouve que c'est un moment... dans le blender.
Ouais, je trouve que c'est un moment pivot un peu dans le film, entre, ben là, les gremlins, c'est un phénomène, tu sais, pas trop... super ciblé, puis après ça, ça devient comme un phénomène, mettons, généralisé, où il y en a partout où tu vas, tu sais.
Ouais.
Puis la scène avec Mr. Clem, c'était hot quand il le met, puis le gremlin qui fait sa secrétaire, puis qu'il y a des moves de secrétaire qui est comme OK.
Ouais.
J'ai trouvé ça excellent aussi.
Ah, c'est de la très bonne humour, là. Moi aussi, ouais, j'ai trouvé ça. Moi, j'avais oublié cette scène-là, en plus. C'est bon que tu reviennes à ça. Mais dans l'ascenseur, il y a une drill là, qui se fait mettre dans le mur.
Ouais.
Ça, d'après moi, c'est une référence à Body's Double de Brian De Palma là, en 84. Là. Ça fait vraiment comme un plan dans Body's Double. Là. J'espère que c'est une référence, là, mais sinon,
qu'est-ce
c'est juste
se
moi.
Qu'est-ce qui se passe dans Body's Double à part la drill?
Ah.
Décris-moi la scène.
Non, Body's Double, c'est à voir. Là. C'est tout un exercice de Brian De Palma. Là. Pour te donner une idée, le Body's Double, là, c'est kitsch pendant la première 45 minutes du film environ.
Mm-hmm.
Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a fait ce film-là? C'est de la marde. Mais finalement, le kitsch est utilisé pour le film. Puis la dernière heure te propulse dans un tourbillon. Là. C'est une expérience, ce film-là. Body's Double, ah, là, c'est... Ah, c'est fucked up. J'ai adoré ce film-là, mais il faut passer à travers les premières 45 minutes que tu te dis, c'est un soap. J'étais en train d'écouter Les Feux de l'amour, c'est pourquoi Brian De Palma a fait ça, qu'est-ce qui se passe. Mais finalement. Ouais. Ah ouais, bien finalement, ça prend en tout cas. Okay. J'espère que c'est une référence
à ça. Je voulais juste savoir parce qu'il y aurait peut-être eu d'autres indices dans le fait. Il y a la hache tout de suite après la drill, puis on voit les gremlins qui écartent les jambes de la fille quand ils passent le
j'ai même pas remarqué.
Ouais. Puis je trouvais ça intense un petit peu. Je l'ai remarqué sur la deuxième écoute. Puis j'étais comme, oh, c'est de mauvais goût, ça.
Fort probable une référence à Body's Double.
Fait que je me disais, si c'est vraiment une référence, c'est peut-être pour ça là, qu'il y a eu le choix d'écarter les jambes de la fille. Mais c'est super subtil la façon qu'ils le font. Là. C'est pas comme
après un
qui essayait de la violer, mais ils le font pareil.
Ouais, c'est quand même gross quand tu regardes. Moi, j'ai pas remarqué, c'est vrai que c'est gross. Mais la Movie Police, t'as-tu remarqué le film qu'il critiquait? J'espère.
Ah oui, il critique les Gremlins, il le dit.
Il critique Gremlin 1. Lui, c'était...
Ça, c'est vraiment drôle, ça, qu'ils s'auto-critiquent et qu'ils disent « Pourquoi quelqu'un écouterait ça? Ça n'a pas de crise de sens. » Puis là, les Gremlins, ils se pointent.
Ça, tu sais-tu l'histoire derrière ça?
Non.
Le gars, c'est Leonard Maltin, qui était vraiment un critique.
Okay.
Puis il a vraiment été critiqué Gremlins 1 à la télé.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ce gars-là, c'était un ami de Joe Dante. Puis il a réellement donné, je pense, 2 étoiles à Gremlins 1.
Oh.
Puis là...
2 étoiles sur 5 étaient mauvais, là.
Ouais. Puis là, Joe Dante, il a dit « J'aimerais ça que tu viennes faire une critique dans mon film Gremlins 2. » Fait que là, lui, il a dit « Ben, je te le dois, tu sais, après avoir démoli le 1 à la télé. » Il est venu, puis là, il a dit « Qu'est-ce que je dois dire? » Parce qu'il n'y avait pas vraiment écrit de scénario, puis il a dit « Joe Dante, vraiment piquant, là, il a dit « Utilise juste tes propres mots. » Puis il l'a laissé critiquer encore le premier, puis se faire tuer pendant qu'il critiquait le premier, ce qui est quand même fucking drôle.
Ah, c'est bon, ça.
Puis d'ailleurs, il a coté 3 étoiles le 2. il a mieux coté le 2.
C'est repris. Mais après, là, ça va dans la scène du labo là, qui est...
Exactement. Puis c'est là que je vais te demander...
Over the fucking top.
Est-ce que tu as aimé à quel point... C'est là que le film, moi, j'ai trouvé qu'il se donne des ailes puis qu'il se permet de surpasser des ailes. C'est mal dit parce qu'en fait, il en donne vraiment des ailes. Mais c'est moi, j'ai trouvé ça épique comment il utilise le labo puis quand il utilise les formules qui fait muter les Gremlins.
OK.
As-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça?
Sur la première écoute, j'étais pas sûr si j'aimais ça. Okay. Pendant la scène, à la fin du film, en rétrospective, je me disais « J'ai vraiment adoré cette scène-là. » Sur la deuxième écoute, all the way in sur cette scène-là, une des meilleures scènes du film. Tout se parle. Il sème plein de petites graines dans cette scène-là pour la suite du film qui est déjà pas mal over the fucking top.
Ah oh, ouais, man. T'as juste déjà là, que t'as Christopher Lee qui rentre avec une espèce de feuille dans les mains.
Ouais.
Ça, c'est le film The Invasion of the Body Snatcher, mais pas la version de Kiev, pas Kiev Sutherland. Je me trompe encore, c'est-tu?
Donald, son père.
Donald Sutherland, ouais. La version de 1956, si je me trompe pas. Que c'était ça, les Pods Person. Enfin, il rentre avec ça qui est une référence à un film de 1956 qui est quand même drôle, qui met aussi à la télévision dans Gremlins 1. Un des films qu'on voit à la télévision dans Gremlins 1, c'est Invasion of the Body Snatcher 56.
Talon, fait,
déjà, ça c'est quand même très hot.
Voir qu'il avait vu ça.
Ouais, mais c'est parce que j'ai vraiment aimé celle-là. J'ai tout aimé les versions d'Invasion of the Body Snatcher. J'ai vraiment
curiosité. Tu l'avais-tu trouvé par toi-même ou tu l'as trouvé sur Internet?
Ah, ça, je le savais. Body Snatcher, je l'avais spoté dans le 1, puis je savais que ça, c'était un cocon, là.
Respect.
Respect, bro. Mais t'as celui qui avale le sérum d'intelligence, là. Ça, c'est
épique. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parce que c'est ça qui manquait dans le 1. Il manquait comme un but, puis là... On te sert un personnage qui peut t'expliquer le but, puis il fait juste de la merde parce que c'est un gremlin. Et genre, ben qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut la civilisation. On veut.
Ah ouais.
Là, il t'explique tout ce qu'il va faire, puis il fait comme oh. Puis c'est parfait parce que c'est exactement le gremlin ce que tu veux, puis il te livre exactement ce que tu veux, mais exactement ce que tu veux pas, dans le sens, tu veux qu'il t'explique pourquoi les gremlins sont comme ça. Puis lui-même étant un gremlin, il fait pas ce que tu veux.
Mais c'est ça, qu'est-ce que fucking drôle, c'est ils font juste y mettre des lunettes puis une élocution de feu, genre. T'sais, that's it. C'est fucking bon.
Il prend le sérum, il a une espèce de rhume de cerveau, puis quand il ressort de la table, il est rendu avec des lunettes, genre comme si ça le rendait vraiment intelligent d'avoir des lunettes. C'est parfait.
Ce qui est une trope de cinéma, là, souvent, là. Puis là, il shoot, ils envoient un gremlin, puis il dit... « Son is a problem for ethnic group. » Puis là, il verse...
C'est dans son propos, quand il parle des gremlins, il parle d'un groupe ethnique. C'est que c'est bon.
Là, il injecte le sérum à celui qui a des ailes.
Ouais.
Puis lui, il part à l'extérieur. Puis là, exact. Dans la fenêtre, tu vois le signe de Batman. Ce qui est une bonne touche d'humour. Là. Ça, ouais, ça m'a fait rire.
Ça, c'est super évident. Là. C'est zéro subtil. Là. C'est genre dans ta face. Là.
Mais c'est drôle, hein, Chris.
Ah, ben oui.
Mais après ça, ça coupe... Il y a tellement d'affaires, là.
Il y a le gremlin qui est un légume.
Mais avant, t'as la... Oui, c'est vrai, le gremlin légume, excuse, vas-y.
Ben, c'est là que je t'allais, là. Après ça, j'ai le gremlin. Il y a comme des bouts où on part puis on revient là, au labo un petit peu plus tard. Mais mettons, tout ce qui se passe au labo, il y a le gremlin légume, il y a le gremlin Batman, il y a le gremlin électrique.
Oui, ouais, lui est important. Là.
Il y a le gremlin araignée.
Ouais, ouais. Qui est Spike.
Stripe. Puis, est-ce qu'il y en a un autre? Il me semble qu'il y a un autre gremlin spécial que je manque.
Ben, t'en as plein, là.
Il y a le gremlin fille.
Oui. La seule survivante.
La survivante qui est excellente. Fait que ça, c'est tous les gremlins qui sortent du labo à la base. Après ça, après le labo, on revient à l'espèce de scène de chaos. Il y a
Il y a juste un petit shout-out, là, une quote qui m'a vraiment fait rire. Ouais, le gremlin intelligent, il parle au téléphone pour la bourse. Il dit aux gens de tout investir dans des cannes de bouffe puis des shotguns. Ça me fait fucking rire.
Tu sais que l'apocalypse s'en vient, là. Lui, son but, c'est juste mischief and mayhem.
Mais dans la scène, justement, de chaos, t'as l'exhibitionniste Gremlins qui est de nouveau là.
Le trench coat. Et ça se passe différemment que dans le premier. Parce que dans le premier, la fille est juste outrée, puis là, elle est comme, là, mon asti.
Elle fait juste de botter.
C'est ça.
Mais j'ai oublié de parler de quelque chose dans la première partie. Le voisin de Billy.
Ouais, Mr. Futterman.
Ouais, il vient à leur appartement. Finalement, vu que les gremlins sont là, il leur dit juste qu'il y a un problème d'infestation. Puis là, ils s'en vont dormir à l'hôtel. Mais eux, ils te voient se promener à New York.
Exactement. Eux autres, au fond, ce qui arrive, c'est qu'ils recroisent le gremlin Batman.
Exactement.
Il finit par se faire lancer dans du béton, puis finit par devenir une gargouille. Là. Ça, j'ai trouvé
très
ça
excellent. Très beau clin d'œil. Ah, c'est débile.
J'ai aimé le fait que Mr. Futterman, au fond, vu qu'étant un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, mais il fait toute référence comme quoi c'est l'événement avec les gremlins qui l'a fucké.
Ouais, c'est vrai.
Et non, fait que tu vois, il agit comme un vétéran, puis il parle de guerre comme si c'était un vétéran, là, mais plus par rapport à l'événement des gremlins. Tu vois, j'étais pas fou, aussi, je les ai pas hallucinés.
Ah ouais, il capote, ce gremlin, lui, là.
Comme la raison pour que Mr. Futterman embarque comme dans la guerre.
Gizmo se fait encore intimider.
Gizmo s'entraîne.
Ouais, mais non, c'est pas tout de suite. Parce que là, il se fait passer le train dessus. Parce que j'ai fait une erreur, là. Le train, c'était pas... Il se fait intimider d'une autre façon, là. Il se fait intimider une couple de fois dans le film. Mais là, t'as la bobine du film qui coupe quand le docteur essaie d'expliquer à tout le monde qu'est-ce qui se passe. La bobine coupe. Ça, c'est insane, là.
Et fucking épique. Imagine que t'es au cinéma puis arrive ça, là. Comment t'es satisfait par qu'est-ce qui se passe?
Clairement,
ne pas être satisfait par la bobine qui coupe, les gremlins qui jouent avec la bobine. Noodies, noodies.
Ils font des ombres, là.
C'est excellent. Ah oui. Hey, je capotais. Puis là, bon, naturellement, les gremlins, ils te servent un film de porn, là, mais pas de porn. Là.
C'est de l'ancien porn. C'est du vieux porn érotique. Des années.
Ouais. Érotique. Puis le manager du cinéma, qui est un personnage qu'on revoit, qu'on a déjà vu, il me semble, là, ce gars-là, dans d'autres...
Tu sais, c'est du film?
Dans Chopping Mall, right?
Oui, c'est exactement. C'est le gars dans Chopping Mall.
That's it. Puis qui fait juste dire, OK, je vais régler votre problème. Arrêtez de capoter avec les gremlins. Puis ça va demander à fucking Hulk Hogan.
Non, mais avant... Déjà, le commentaire de la madame, c'est quand même drôle, là, parce que c'est encore auto-référentiel. Là. Elle dit This is worse than the first movie.
Ah, ok, ça, j'avais pas pogné. J'avais juste pogné le projectionniste qui dit tout ce qu'ils veulent, c'est regarder les Blanche-Neige et les Sept Nains.
Ouais, puis il dit We don't show movies. We don't make movies, we just show them. Fait que décalisse. Mais oui, là, comme tu dis, ça va voir Hulk Hogan.
Puis là, Hulk Hogan qui fait un speech, puis ça a l'air que ça intimide les gremlins à remettre la pellicule.
Ouais, puis on repart à Gremlins 2, là, qui est carrément juste vraiment comme une parenthèse dans le film. Là.
Puis humoristique. Tu prends cet événement-là, là, puis il est tellement singulier là, qu'il est parfait.
Ah ouais, vraiment, là, c'est super.
Comme, je sais pas, peut-être que c'est dans ces années-là, Hulk Hogan il était vraiment, vraiment gros, puis j'espère qu'il n'y avait pas d'autres comme message caché de marketing dans ça. Juste le fait qu'il ait choisi Hulk Hogan parce que ça n'a pas rapport, ça me fait extrêmement rire.
Ah, mais même s'il y en a, c'est sûr qu'il y avait le marketing était sarcastique en lui-même.
Ah oui, c'est incroyable. Mais
après ça, t'as la... Moi, je l'appelle la Grim Girl. Grim Girl? Gremlins Girl, Grim Girl.
Oh, ça, c'est bon.
Don't be afraid of your feeling. Puis elle essaie d'embrasser l'espèce de bras droit de Crump.
Ah ouais, ça c'est excellent.
Mais est-ce que ça me faisait rire quand Gizmo il y a la phrase de Rambo là, dans sa tête, puis ça dit To survive war, you must become war.
Fait que Gizmo s'entraîne. Il passe au travail de plancher avec des niaiseries. Ça, je t'avoue que c'est un élément cocasse, mais ça m'a pas fait tant triper là, que Gizmo s'entraîne à devenir un tueur à la Rambo. Là.
Ouais, ça fait un mot un peu Three Stooges. Hein.
Ce que j'ai plus trouvé drôle, c'est le gremlin électrique qui essaie d'attaquer les big boss en haut de la tour.
Ouais.
Que, il l'attrape dans un téléphone puis il le place on hold.
Oui, puis la musique...
Il est dans la salle d'attente puis il capote le gremlin. Ça, j'ai trouvé ça vachement drôle.
La musique d'attente le fait capoter. Là.
Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment vachement drôle. Parce que pour n'importe qui a déjà eu affaire avec du service à clientèle, c'est toujours horrible le style de musique.
Ah ouais, mais tout le monde a déjà eu ce moment-là dans sa vie. Là.
T'as comme un feel pour le gremlin à ce moment-là.
Mais c'est vrai que c'était super bon, cette scène-là. Là.
Puis cette scène-là aussi, il y a le moment où Clamp il dit « Ah, je vais enfin pouvoir utiliser ma sortie secrète. » Puis qu'est-ce que ça a fait rire que le milliardaire dans sa tour, que son bureau, il est au-dessus des nuages parce qu'on entend un avion passer. Lui, il a sa sortie secrète à New York. Je trouvais ça excellent. Ça m'a fait
Mais tu sais, au moins, il sort pour leur plan. Là. Leur plan, c'est de faire croire à Gremlin que c'est la nuit pour qu'il sorte et qu'il melde.
Ouais, ouais. Puis tout ce plan-là, j'étais on board avec ce plan-là. C'était pas comme tiré trop par les cheveux.
Non, c'est vrai. C'est une bonne idée.
Puis c'est un autre semi-trick, au fond. Excuse, référence par rapport au 1. Parce que dans le 1, les Gremlins, pour pouvoir se faire nourrir avant minuit, ils jouent avec l'horloge.
Ah ouais, c'est vrai.
T'sais, fait que c'est comme une espèce de revanche par rapport au temps. Fait que le premier coup, c'est lui qui s'est fait pogner, puis il pense à ça d'après moi, puis il se dit je vais les pogner si je vais reculer les horloges.
Ouais, c'est vrai que c'est un throwback un peu. J'avais pas vu ça de même, mais maintenant que tu le dis. Mais la boss à Billy, elle se fait pogner dans l'étoile d'araignée, la rouquine. Là. Gizmo's Train. Après ça, j'ai marqué Shot Gremlins à TV, puis il dit. C'est celui intelligent, là. Puis il dit, on est pas civilisé. C'était pas civilisé, mais c'était le fun. Puis c'est encore
c'est ça qu'il dit. Il dit, il va falloir qu'on apprenne plein d'affaires dans la civilisation, comment réserver des tickets, puis voir des shows. En tout cas, sinon, il y a des crimes dans les rues, à ce qui paraît. On peut voir ça pour gratuitement, là.
Ouais, mais quand il dit ça, tu sais, je voyais vraiment ça comme une critique du produit qui est le film Gremlins. C'est le tir, il dit c'était pas civilisé, mais c'est le fun en motadis, tu sais.
Ouais. C'est excellent.
Mais t'as le look de Gremlin araignée qui est quand même très cool, là, moi j'ai trouvé. Là.
Exact. Fait que il y a Billy qui se pogne dans une chaise de dentiste, on s'en fout. Il y a Mr. Futterman qui vient le sauver, on s'en fout. C'est là qu'il est en tati, puis au fond, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais la rouquine qui est pognée dans la toile d'araignée. Ils voient le Gremlin araignée, ils sont comme ah mon Dieu, il est dégueulasse, qu'est-ce qu'on va faire? Et Gizmo arrive pour sauver le show avec son arc à flèche et son arc à flèche en feu avec une... Je sais pas qu'est-ce qu'il tire, là, mais c'est un crayon, je pense.
C'est liquid paper qui met en feu.
C'est excellent.
Je pense que c'est ça.
Un bon vieux liquid paper. Ça fait longtemps que j'ai pas manipulé ça. Fait qu'il finit par tuer, au fond, c'est sa revanche contre Stripe pour l'avoir intimidé.
To fight a war, you must become war.
Il finit par le faire exploser.
Exact.
Lui, il meurt. Puis à partir de là, si tu pensais que c'était over the top, tu repognes un autre petit coche.
Ah, parce que tu vois toutes encore les gremlins. C'est un peu comme la scène du bar dans le premier.
Exactement.
Mais là, multiplié à deux.
Puis là, t'as justement le commentateur, le vampire, qui est un commentateur, qui te le dit, là, il dit « It seems like they're doing a musical. »
Ah ouais, New York, New York.
Exact. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé ça bon, là, genre ils se mettent à faire un musical, puis que t'as l'espèce de mosaïque de la fille, puis que dans l'œil, t'as la fille qui repop pour faire le show. J'ai trouvé ça vraiment excellent, là. Ça m'a vraiment diverti, ça.
Ah oh ouais, c'est vraiment bon, là. T'as des Gremlins avec des tattoos de Warner Brothers, Phantom of the Opera, t'en as, là, name it, là.
Les références sont... Il y en a une ou deux secondes dans cette scène-là, c'est vraiment incroyable. Bon, finalement, il y a le plan final qui ne peut pas rentrer à exécution parce qu'il se met à pleuvoir dehors. Fait que ça, j'ai trouvé ça bon parce que c'était un genre de twist of event facile, mais logique, dans le sens que c'est sûr que s'il pleut puis qu'il fait noir dehors, ton plan
t'es baisé.
Fucking baisé. Puis ouais. J'aurais été déçu que finalement leur plan marche comme du premier coup, one shot. Je t'avoue.
Ouais, non. C'est vrai. Fait que c'est bon aussi.
Finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un contre toute attente, il se dit je vais arroser les gremlins. Il y a quand même un esti de plan, hein.
Ouais.
Fait qu'il arrose les gremlins, ce qui les cause à vouloir se multiplier, en fait. Puis il relâche le gremlin qui est on hold, le gremlin électrique, puis il électrise au fond tout, électrocute, excusez, parce qu'il les tue. Donc il électrocute ouais. Tous les gremlins d'une shot, puis il sauve la place.
Ouais, exact. Puis t'as c'est une référence. Dans Curve, t'as une référence à The Wizard of Oz.
Ah, la sorcière, c'est ça. J'étais pas sûr si c'était The Wizard of Oz.
Ouais, fait c'est ça.
Si je l'avais pas dit, je n'aurais probablement pas parlé, mais c'était clairement une référence.
J'étais pas oui, c'était ça. I'm melting! C'était ça, 100% sûr.
Puis là, j'ai aimé les interactions avec Clamp à la fin. Tu sais, le film est basically putain over the top à partir de là, mais
ouais,
c'est
vraiment.
Un gros focus sur Mr. Clamp à partir de ce moment-là. Fait qu'il y a comme quoi, il y a son escouade privée, puis tout ce qu'il fait, c'est business, puis il tombe comme semi en amour avec la boss, puis sa déclaration d'amour, c'est « You work for me, don't you?
» Ouais, la rouquine, là.
Ouais, puis j'ai...
Et elle a dit « I work hard.
» Est-ce que j'ai trouvé ça excellent?
L'enfance sur « hard »,« work hard. »
Ah, oh, bon Dieu, mais comme il marche fort!
Mais ouais, puis c'est pas mal de même que le film est fini.
Ah oui. Est-ce que c'est bon? Je pense que je vais être obligé de revoir. Ah, je revois-tu ma note? Je suis pas sûr.
La première, t'avais donné 7.8, me semble, comme moi. Ça se peut-tu?
Moi, j'avais donné 7.8. Un 7. Mais dans mes notes, j'ai 7, mais je suis certain qu'en en reparlant, là...
Je pense que t'avais donné 7.5, moi.
Ouais.
Moi, mais j'avais donné 7.8 au premier.
Tu dis qu'il était équivalent, puis en reparlant, je pense que je l'aime de plus en plus, ce film-là. Fait que c'est un 7.5 lui aussi, là. Clairement.
Au minimum. Moi, j'y vais avec un 8.5, man.
Ah ouais. Toi, t'as le facteur super nostalgique en plus qui est présent.
Ben, oui, puis non. C'est juste parce que pour vrai, c'est une suite awesome. Ils ont fait tout ce qu'une suite devrait être. Il y a des références de cinéma pas trop in your face, pas in your face. En tout cas, c'est tout. Je trouve que le film est très bien dosé dans son excès.
Il y en a qui sont in your face parce que même moi, j'en ai pogné une coupe. C'est
comme Batman.
Des quand même moins obvious. Mais il y en a des très deep, là, comme ton affaire de Body Snatcher. Je m'excuse si t'es pas un fan de ces films-là ou de tu les as pas vus étant plus jeune. Fait que là, tu sais, le public cible. Je pouvais pas catcher cette référence-là à l'époque, je pense. Public cible étant comme, je sais pas, jeune adulte, un peu plus large, là.
Mais c'est juste le fait que ça soit auto-référentiel aussi, là. Ce qu'ils critiquent dans le film, les Gremlins, qui font des commentaires, eux autres même au scénario du premier, comme que t'as déjà mis la carte sur table, là, c'est toi-même qui l'as souligné, couper son speech cheesy, plein d'affaires de même, tu sais, on dirait qu'ils ont comme, outre l'aspect que le premier a un charme incroyable à cause de l'aspect Noël, ben celui-là, tu sais, si t'enlevais le charme du premier, comme c'est définitivement un meilleur film de A à Z.
Ah ouais, ouais.
Selon moi, là. Mais le charme du premier reste là, puis ça reste que c'est un bon débat, là, pour vrai, là. Lequel est le meilleur, le premier puis le deux? Moi, je suis du côté du deux, mais je peux entièrement comprendre quelqu'un qui me dit j'aime plus le un, là.
Ouais. Question comme ça, ça t'arrive-tu de regarder le deux sans avoir regardé le un? Ou de les regarder dans l'autre ordre, le deux puis le un après?
Ça m'est arrivé, maintenant moins, mais ça m'est déjà arrivé là, une couple de fois là, de pogner un 2 ou un 3 puis de finir retourner au premier. Tu sais, les Friday the 13, je pense
non, que c'est le meilleur exemple. Les Gremlins.
Non, j'écoute le 1, le 2 tout le temps.
Toujours le 1 puis le 2. Hein. Mais ça, je pense que c'est un indice qui dit qu'ils sont quand même équivalents. Parce que si, mettons, il était vraiment, vraiment that much supérieur, tu l'écouterais tout seul.
Mais non, mais j'ai quand... mais je pourrais l'écouter tout seul, pour vrai. Ouais, je suis pas mal sûr parce que j'ai déjà écouté tout seul. Mais honnêtement, j'écoute tout le temps les deux en paire. Mais c'est les deux sont tellement bons. Tu sais, 7.8 là, pour le 1, c'est quand même une excellente note aussi. Là. C'est juste, ouais,
le pour 2, un film de Noël.
Le 2, il y a vraiment une place dans mon cœur.
Ton petit cœur.
Fait que Seb, IMDB?
Yes, sir.
Le sexe. Ah, ben avant, on va s'ouvrir une petite bière.
Yes.
Donc, vas-y pour le sexe et la nudité.
J'ai envie de dire un.
Non, il y a un. C'est un 2 à cause de quand elle met son pied sur son pénis.
Pardon?
La rouquine au restaurant.
Oh, oh boy.
C'est clairement sexuel, la scène du restaurant.
Ah, ben
aussi,
oui.
Il y a des... Ouais, c'est... puis il y a d'autres scènes aussi qui auraient des références.
Ah, yeah, yeah.
Violence et sang.
Violence et sang. Je vais marquer un 2 parce que d'après moi, le, tout ce qui se passe tombe plus dans scène intense.
Fait mais
que...
ils ont mis un 3.
Ah ouais.
Puis ils disent que la scène la plus violente, c'est quand le gremlin se met dans le paper shredder. Mais sinon.
Parce qu'il se transforme en relish.
Ouais, puis ils disent d'autres choses aussi que. Transformé en cimable, des choses comme ça. Le 2 aurait très bien pu être justifiable, ouais. Là, honnêtement. Là.
Guys.
Caractère profane?
Pas un thème, je vais dire. Hey, j'ai envie de dire un encore, mais là, je vais me faire rosser. Attends.
5, 4, 3.
C'est un, je le dis.
C'est 2.
Oh.
PG-13 for sci-fi violence and peril. Some sexual contents and language. Ouais, c'est mais... juste quelqu'un qui a remis la raison du PG-13, mais qui n'a pas donné d'exemple concret.
Sérieux, je me suis fait avoir par ça?
Ben, il y a 20 votes. Fait que, il y a d'autres mondes qui l'ont mis modéré, là.
Mmh, ouais, mais il y a personne. Est où Diane?
Il y en a pas. Il y en a pas de Didi.
Il y a personne qui a compté. Fait que, c'est un 1. Moi, dans mon cœur, c'est un 1. Il y a personne
alcool...
qui a compté pour me contrer, là.
Alcool, drogue et fumée?
Je pense que oui. Je pense que même les gremlins fument. Fait que c'est. Mais il y a moins d'alcool. Dans le premier, il y avait la scène du bar où on les voyait boire, tandis que là, à mon souvenir, il n'y a pas de gremlins qui boivent, mais il y a des gremlins qui fument. Je vais dire un 2 encore.
Ouais, c'est un 2. Cool. Ils disent qu'il y en a qui boivent, mais aussi qui fument. Effrayant et scène intense?
Ben, je vais dire un 3.
Mais non, ils disent que c'est un 2, puis ils disent que malgré que c'est plus intense, il y a moins de meurtres puis moins de violence que le premier envers les humains, mettons.
Ah,
c'est,
ouais,
c'est beaucoup.
Il n'y a pas la madame qui se fait propulser au travers de sa maison par sa chaise. Là.
La seringue d'un fesse, ah, mais ouais. Ils disent que c'est beaucoup humoristique, fait qu'ils ont mis ça pour un 2. Hey, Seb, c'est fait ouvrir par Gremlins 2.
Vraiment, on n'a pas, j'ai pas eu une bonne perception versus les internets de ce film-là.
Tu veux-tu commencer pour ton recast ou finir ou...
Je peux commencer, le mien est très court.
Vas-y.
Naturellement, quand c'est un film qu'on aime, c'est plus difficile. Je sais pas comment toi ça a été. Moi, j'en ai juste 2.
Ouais.
Mr. Clamp.
Ok.
Je l'ai recasté par Nicolas Cage.
Ah, oh, ça aurait pu être bon, ouais.
Est-ce que j'aurais aimé ça de voir. Il manquait de Cage. Juste une petite notch de Cage Madness dans Mr. Clamp, là. Cage qui imite Trump pour faire Mr. Clamp, là.
Eh hey boy, un festin.
Ah, ben ouais, ça aurait été bon. Puis mon autre, c'est le Mr. Forster. L'assistant de Mr. Clamp, je l'ai recasté par Stanley Tucci, que dans ma tête, il joue le rôle d'assistant par défaut dans n'importe quel film.
Ouais, c'est vrai. Stanley Tucci est toujours l'assistant.
Toujours l'assistant, jamais rôle clé dans Captain America. C'est comme le docteur principal, mais c'est l'assistant de... La mise en forme de
ouais, c'est ça.
Dans Devil Wears Prada, c'est carrément l'assistant. Dans Hunger Games, c'est le commentateur, mais il y a un rôle de second plan qui est toujours en second, au fond.
C'est vrai, pareil. Non, c'est un bon recast pour ça, mais je vais te faire rire quand tu fais une transition vers mon recast.
Fait, wow!
Moi, okay. L'assistant, c'est Jean-Claude Van Damme.
Oui! Oh oui!
À vous! Ouais, pour la similitude physique, là, puis Jean-Claude Van Damme aurait été hilarant dans un rôle de même, là, contrairement à contre-emploi.
Qui se claque une split par rapport pour faire whatever Jean-Claude Van Damme fait dans ce film-là.
Il split pour embrasser la Grim Girl.
Ah ouais. Je veux voir cette scène-là. Ben, pas tant que ça, mais en tout cas.
Le livreur qui entend Gizmo chanter. Je l'ai recasté par Fez dans That 70s Show, qui est la Carl Wilmer Valderrama.
Autant j'ai bou dans ma tête ton chouette personnage à recaster, autant je suis content.
Fez. Excellent. C'est similitude encore une fois. Et pour celui qui joue Dracula, j'aurais pris c'est Captain Spaulding dans House of Seven, de House of Thousand Corpses, Sid Egg.
Oui. Okay.
Pourquoi pas? Pourquoi? Un personnage qui aurait vraiment plus sacré, là.
Ouais, t'sais, j'aurais aimé ça le voir faire son Capitaine Spaulding, mettons, pendant qu'il filme, super cadré, puis de le voir faire son clown, ben, qui sac, puis qui est dégueulasse au fond.
C'est ça. Sans être un tueur, là, comme dans les autres films, ça serait juste Capitaine Spaulding, pas tueur, qui est l'animateur.
Mm-hmm.
C'était ça mon recast.
Incroyable le recast, mais vrai.
Pas pire, hein?
Je suis vraiment satisfait. Je pense que j'aurais choisi ton Jean-Claude Van Damme over Stanley Tucci.
Ouais.
Je pense que, mettons qu'on couple les recasts, puis que Nicolas Cage fait Mr. Klemp avec le tien, le film est parfait. Il va chercher comme un 9.5 sur 10.
Ça serait fourrette. Mais
je voudrais pas un remake pour vraiment apprécier le choix d'acteur.
Mais je voudrais pas un remake pareil, là. Mais hey, c'est ça qui conclut Gremlins 1 et 2, des films à voir. Puis je pense que les deux, on attend le 3 en espérant qu'ils soient à la hauteur de au moins un des deux.
Ouais, les attentes sont là, malheureusement, pour le 3.
Ils ont quand même eu 30 ans pour le faire, là.
Ouais, puis ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont s'y prendre, puis j'ai hâte de voir le genre de chaos qu'ils vont développer. Je suis vraiment...
Ben, ça serait fantastique qu'ils redonnent à Joe Dante la réalisation.
Rendu là, ouais, j'espère.
Chris Columbus au scénario, Joe Dante qui apporte sa connaissance des Gremlins, ça pourrait... Puis en plus, c'est un peu de sa folie, ça pourrait faire un film vraiment awesome, là. Ah, je sais pas si les studios vont être prêts.
Personne n'est prêt pour ça, je pense.
Non. Fait que, ouais, on recommande fortement, là, vraiment, là, Gremlins 1 et 2 à voir. Fait que, Seb, le mot de la fin?
Ouais, fait que, comme d'habitude, likez la page Facebook, partagez notre page, partagez nos posts si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Ça nous donne une belle visibilité, ça nous encourage à continuer. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions par Facebook, email et ou Instagram. On les lit toutes. On est toujours content d'avoir une conversation avec vous. Puis c'est pas mal ça.
Ouais, moi j'oublie des fois de le mentionner sur Letterboxd. Vous pouvez continuer à aller voir Mick473. Je continue à mettre des films aussi, les films que Seb sait pas, là, mais que j'écoute pour voir si ça peut faire un bon podcast, puisque c'est complètement nul. J'ai une note de suite, fait que ça veut dire qu'on fera pas de podcast dessus. Fait que quand vous voyez de l'horreur qui apparaît sur ma page, ben c'est qu'on le fera pas.
Ah.
Fait que Mick473 sur Letterboxd. Mais sinon, je tiens à le dire aussi, on est dans le temps des fêtes. Des fois, c'est tough de trouver des cadeaux ou n'importe quoi. Seb, il aime pas ça parler de lui-même, il aime pas ça parler de ses affaires, mais regarde, je te mets on the spot, Seb. Ta compagnie, qu'est-ce que vous faites, justement? Ça peut être un extrêmement beau cadeau.
On fait des produits pour l'entraînement, pour l'escalade. Fait qu'on a développé une poutre d'entraînement, puis on a quelques autres petits items sur la boutique, notamment une belle casquette arborant une belle chèvre sur un top de montagne. Alors, si vous voulez nous encourager ou tout simplement en partageant la page peut-être à des gens que vous connaissez qui fait l'escalade, ou allez voir la boutique en ligne sur ibexco.ca, ibexco.ca, ou juste faire, comme je disais, un like ou un partage sur la page Facebook, ça aide toujours à la visibilité de nos projets. Super le fun.
Non, c'est vraiment un beau projet. Là, moi, je suis pas là-dedans, mais pour vrai, Seb, c'est vraiment cool, puis il n'ose pas en parler, fait que je tenais à le mettre on the spot. On va partager le lien sur notre page, là, fait que si vous voulez aller soit le partager vous-même ou bien aller consulter pour voir si un produit vous intéresse, soit à donner en cadeau ou à l'utiliser pour vous-même, allez-y fort. Mais sinon, ben, ça n'engage à rien, puis continuez à écouter le podcast, on a du fun. Fait que attention à vous, bonne semaine.